Radio Kapi.
Oh, Kapi.
L'Union sacrée pour la nation organise ce mardi après-midi des primaires pour départager trois candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les députés membres de la majorité parlementaire ont le choix entre Modeste Baati Lukwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosso. Fin hier lundi de la formation des militaires au centre d'entraînement Kanloa Maomanyema, 3000 nouvelles recrues, dont une soixantaine de femmes, ont reçu des mains du vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba leur brevet de formation. L'invité de ce journal, c'est Dr Lucien Arowando. Il est le chef de zone de santé de Doruma. Il parle de la rougeole dans cette région qui partage la frontière avec la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Bonjour à tous. Au micro, Noéla Luzitu Kabambi. L'Union sacrée pour la nation organise ce mardi après-midi des primaires pour départager trois candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les députés membres de la majorité parlementaire vont donc élire entre Modeste Baati Lukwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosso qui sera le prochain candidat président de l'Assemblée nationale. Convoqué par le présidium de l'Union sacrée, ces élections primaires visent à trancher entre ces trois candidats sans suicide. Trop de frustration, estime un membre du présidium. Reportage Michel Kifindangoy.
L'option levée par le présidium n'est pas susceptible à mettre d'accord tous les députés membres de l'Union sacrée. Gary Sakata du Palou estime que l'organisation de l'élection primaire est inédite, inopportune et devrait être annulée.
Je suggère l'annulation pure et simple de ces communiqués, mais également la non-tenue de cette primaire. De ce fait, cela ne pourra que rajouter un peu plus de désordre à la situation quasi confuse entourant ces derniers points à l'ordre du jour de la session extraordinaire.
Pour les députés Jacques Joly, aussi de l'Union sacrée, cette procédure est conforme aux articles 25, 26 et 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
La majorité s'est réunie à travers le présidium de l'Union sacrée. Ce présidium n'a pas trouvé de compromis. Donc, on s'est réunis maintenant dans le cadre de la plénière composée de tous les députés pour départager les trois candidats. Donc, c'est une procédure conforme à la Constitution, conforme au règlement intérieur, conforme aux us et pratiques parlementaires.
L'élection primaire se tiendra donc ce mardi après midi en vue de départager Modeste Baati Lukwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosso, tous trois candidats présidents de l'Assemblée nationale.
Michel Kifinda sur Radio Okapi. Les jeunes de la société civile du Haut-Katanga, eux, organisent des rencontres avec les candidats gouverneurs des provinces. Pour ces jeunes, cet exercice leur permet de présenter leurs desiderata pour qu'une fois élus, l'autorité provinciale sache répondre aux besoins de la population. On écoute Simon-Pierre Kalenga, un des leaders des jeunes membres du cadre de concertation de la société civile du Katanga. Il est joint par Jean Gandou.
Face à face est un concept purement événementiel qui met en exercice les candidats gouverneurs face à la jeunesse de la société civile. On sous-entend toute catégorie des jeunes incluses dans cet exercice, dans cet échange patriotique. Et l'objectif est de partager justement les doléances de la communauté vers les potentiels candidats gouverneurs, mais aussi de promouvoir déjà les discussions entre les futurs dirigeants de la province du Haut-Katanga et la communauté. Vous êtes sans ignorer que cet aspect des choses n'est pas mis en exercice quand, une fois qu'on est autorité ou qu'on est gouverneur, directement on coupe l'éponge avec les contacts avec les différentes conférences que les jeunes organisent. C'est ainsi que nous avions profité cette période pour que nous puissions faire ces échanges. C'est très bénéfique parce que la jeunesse est en train de se retrouver, non seulement se retrouver, en train de formuler certaines recommandations qui pouvaient manquer dans l'élaboration de plans de chaque candidat.
Au Kasaï central, à quelques jours des élections des sénateurs et des gouverneurs, la Société congolaise pour l'État dénonce les propos des discours incompatibles avec les valeurs démocratiques qui circulent sur les réseaux et relayés même par certains médias. Dans une lettre adressée au procureur général près la cour d'appel du Kasaï central, le directeur général de cette composante de la société civile rappelle que ces messages développés intentionnellement risquent de créer ou de compromettre la paix pour cette province post-conflit si rien n'est fait. Les propos de maître Dominique Kambala sont recueillis par François Kadima.
La province du Kasaï central, à l'instar de toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo, se trouve dans une période préélectorale des élections des gouverneurs de province et les élections des sénateurs. La Société congolaise pour l'état de droit a observé depuis un temps sur les réseaux sociaux ainsi que dans certains médias des propos et des discours qui sont incompatibles avec les valeurs démocratiques républicaines. Il peut être déniché des propos identitaires qui considèrent tel candidat comme n'étant pas originaire, tel candidat n'a pas de qualifications requises. Nous avons estimé que ces propos et ces discours étaient tellement dangereux, il faut que ces faits ne soient pas impunis. Ces agissements, ces comportements.
Fin hier lundi de la formation des militaires au centre d'entraînement Kanloama dans la province du Maniema. 3000 nouvelles recrues, dont une soixantaine de femmes, ont reçu des mains du vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba leur brevet de formation. Dans son rapport de formation, le commandant du centre a fait savoir que cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs des FRDC. La formation qui vient de s'achever a duré près de 10 mois. Florence Kizalunga, reportage.
Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait savoir qu'après cette formation, ces militaires seront déployés pour la défense de l'intégrité nationale. Mais qu'est-ce que ces jeunes commandos ont appris? Le commandant centre d'entraînement Commando Loama répond.
Pendant l'entraînement, les notions suivantes ont été reprises au profit des stagiaires commandos. Tactique de combat, opération spéciale, amphibie, piste de corde, piste d'obstacle, combat sans armes, orientation, armement, technique de tir au combat, sauvetage au combat, les droits des conflits armés, éducation physique et sport et la survie au combat.
De son côté, les commandants détachement belge les exhorte en ces termes.
Jeunes commandos, la passée n'était pas facile. Oui, et la formation est dure parce que le travail d'un commando est dur. Maintenant, c'est à vous de défendre le territoire de la République démocratique du Congo.
Les commandos formés se disent être prêts pour défendre le pays.
J'ai la joie tout simplement, un jeune commando, et j'ai dit aux autres, approchez pour aller au Kobunele-Kolonabiso.
J'ai eu une très grande joie parce que le lendemain, je serai quelque part pour aller défendre notre pays.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pendant ce temps au Nord Kivu, la peine de mort a été décidée hier par le tribunal militaire de Goma contre un soldat des FRDC de l'unité spéciale de réaction rapide. Il était déployé sur la colline de Kanaba, non loin du site des déplacés de Lushagala, dans le quartier Mugunga, commune de Karisimbi. Ce soldat a été inculpé par le parquet militaire depuis le week-end dernier pour le meurtre d'un élève de l'Institut Luachi de Sake déplacé à Mugunga. Le verdict a été rendu devant les parents de la victime et une grande foule, essentiellement des déplacés vivant sur place à Lushagala. Gabriel Wamenya, reportage.
C'est devant une foule compacte, visiblement essoufflée et fatiguée par un long exil dans le cas de Lushagala que le soldat de deuxième classe Mukadi Kabongo Trésor, en quête de la nourriture, a été condamné par le tribunal militaire de garnison de Goma. Ce soldat était jusqu'à sa condamnation poursuivi pour 3 préventions pénales. Lors de sa déposition devant les juges, ce commando a affirmé avoir reçu l'autorisation de sa hiérarchie d'aller chercher des frétins et des choux pour les pas du soir. C'est en rentrant qu'il se verra menacé et pour s'effrayer un passage devant les personnes qui les pourchassaient, il a ouvert les feux en l'air. Cependant, tous les témoins appelés à la barre ont chargé les soldats en affirmant qu'il était en état d'ébriété et a commencé à tirer, touchant mortellement l'élève Mouisha Safari de l'Institut Luachi de Sake délocalisé à Goma. La décision du tribunal a convenu aux parents de la victime ainsi qu'aux déplacés qui ont vécu les drames. La condamnation à la peine capitale de ces soldats porte déjà à 4 les militaires condamnés à mort par les juridictions militaires de Goma depuis la levée du moratoire de la peine de mort par le gouvernement. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
La montée des eaux du lac Tanganyika n'a pas épargné certaines structures économiques d'Uvira au sud Kivu. Ces établissements commerciaux attiraient les visiteurs dans cette partie de la RDC. Entre la frontière à Kilomoni et à Kalundu, à l'extrême sud de la ville, hôtels, bars, restaurants et certains lieux de divertissement ont carrément fermé les portes. Le chef de service de l'économie nationale dans la ville d'Ouvira, Pascal Chabani, déplore un manque à gagner considérable et plusieurs conséquences négatives sur les activités des opérateurs économiques locaux. Fiston Goma.
Bahari Beach, un hôtel à 3 étoiles, a été touché par cette calamité naturelle. Il est le plus emblématique aux côtés d'Ouragan Beach, Flat Caribou Lodge, Villa Ilac, Ciel Bulumba et Biden Beach qui sont envahis par les eaux sur la route menant vers la frontière de la RDC avec le Burundi. Dans certaines chambres comme à l'hôtel Eden City et à la plage d'Or, les eaux ont atteint 80 cm de hauteur, couvrant jardins, piscines et des salles de réception jusqu'à 500 mètres de la limite normale du lac Tanganyika vers la route principale. Le chef des services de l'économie nationale de la ville d'Ouvira, Pascal Chabani, s'est rendu ce lundi au Beach Maindelo où le désastre est similaire.
Il y a les marchandises qui proviennent le long du lac Tanganyika. Il y a le frétin, le maïs, le mikeke, les riz. Pour décharger ces marchandises ici, le marché Maindelo ici, ça pose problème. Les dépôts sont déjà envahis. Il y a le trafic transfrontalier. Les Tanzaniens qui nous amènent les riz, ils ont arrêté. Ils ne savent pas où ils vont entreposer ça. Et les Chinois, par exemple, qui nous amenaient les ciments de Kabimba. Aujourd'hui, ils sont en difficulté parce que tous les ports sont envahis par les eaux du lac Tanganyika.
Ce chef de service dit avoir fait un rapport à sa hiérarchie pour créer un mécanisme en vue de sauver ce qui reste à sauver. D'Ouvira Fiston Goma Mayaba, la Radio Kapi.
Dérèglement climatique aussi dans le territoire de Moba. Plusieurs ponts se sont effondrés ces derniers temps dans cette partie de la province du Tanganyika. Se confiant ce mardi à Radio Kapi, le coordonnateur de la société civile de Moba évoque les pluies abondantes qui s'abattent sur la région comme cause de ces effondrements. Léon Taboupessa craint des conséquences économiques négatives. Il s'exprime au micro de Paul Amunaga.
Dans le territoire de Moba, plusieurs ponts ont été emportés par les rivières suite aux pluies abondantes qui se sont abattues ces derniers temps. Nous avons le pont de la rivière Lufuko qui a divisé le territoire de Moba en deux. Donc le Moba centre est coupé avec Moba plateau, donc le haut plateau de Marungu. Présentement, il est vraiment difficile que les véhicules quittant Pweto, quittant Lubumbashi puissent arriver à Moba. Nous sommes aussi en Pala où nous avons aussi un pont qui a été emporté toujours par la rivière Lufuko. D'autres ruisseaux ont aussi emporté des ponts. Il vaut mieux que le gouvernement puisse faire très rapidement déconstruire les ponts pour que Moba soit ouvert à d'autres territoires, Moba soit ouvert à d'autres pays tels que la Zambie. Et nous craignons, nous en tant que population, qu'il y ait hausse des prix des produits manufacturés, des marchandises pour traverser. Maintenant, il y a même des coûts qui doivent être ajoutés pour qu'on puisse faire parvenir les marchandises dans notre territoire de Moba.
Début hier lundi, ici à Kinshasa, au centre de chirurgie cardiaque, des séances d'opération gratuites des enfants atteints de maladies cardiaques nécessitant une chirurgie. Au total, 9 enfants de 6 mois et 11 ans seront opérés pendant 5 jours. Les cardiologues en charge de ces enfants expliquent ici les causes et les signes liés à ces anomalies. Reportage Greta Lulendo.
Les malformations cardiaques chez les enfants sont d'origine congénitale, comme l'explique Dr Paul Lumbala, cardiologue pédiatre.
C'est un enfant qui va avoir un ralentissement dans la prise du poids, des infections respiratoires à répétition, une toux chronique. Il va avoir cette coloration bleuâtre mauve qui affecte les muqueuses.
Dorcas, mère d'une fillette de 16 mois, a découvert que son enfant avait un problème cardiaque 2 mois après sa naissance.
L'enfant était né très bien. À partir de 2 mois, les lèvres avaient noirci. Quand elle pleurait, c'était difficile de la calmer. On va réparer les cœurs. On est toutes contentes. On espère que tout va bien se passer.
Le CCP travaille en collaboration avec les cliniques universitaires de Kinshasa et l'hôpital pédiatrique Kalembe-Lembe, nous dit Dr Étienne Thioni Kabanga, coordonnateur du centre.
Si leur problème nécessite une intervention localement, ils seront mis sur la liste d'attente. Lorsque nous aurons une mission avec nos partenaires cette année ou l'année prochaine, l'enfant sera opéré.
Le centre des chirurgies pédiatriques bénéficie de l'appui du gouvernement congolais, de l'association chirurgie pédiatrique en Afrique, Chirpa en sigle, la chaîne de l'espoir Belgique, des partenaires français et sud-africains. Il mènera une autre mission de chirurgie à cœur ouvert des enfants au mois de mai prochain. En plus de 10 ans, le CCP a réalisé 30 opérations et 30 enfants ont été sauvés.
Actualité internationale. Une aide humanitaire a été parachutée au-dessus de la bande de Gaza ce mardi. Le largage intervient alors qu'un nouveau complexe de tentes près de Khan Younis dans la bande de Gaza a été construit. L'armée israélienne, elle, continue de signaler qu'elle prévoit une offensive visant la ville de Rafah. Les appels internationaux se multiplient ce mardi pour exhorter le Royaume-Uni à renoncer à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Ces appels interviennent après l'adoption par le Parlement britannique de cette loi qualifiée d'historique par le Premier ministre Rishi Sunak. Le gouvernement espère débuter les expulsions d'ici 10 à 12 semaines. De son côté, Kigali s'est dit satisfait par l'adoption du texte. La porte-parole du gouvernement Yolande Makolo ajoutant que les autorités étaient impatientes d'accueillir les personnes relocalisées au Rwanda. Le gouvernement britannique a mobilisé des centaines de personnels, notamment des juges, pour traiter rapidement les éventuels recours des migrants illégaux et débloquer 2200 places en détention pour eux en attendant que leur cas soit étudié. Des avions ont d'ores et déjà été réservés.
L'invité.
Dans la province du Wotuele, la zone de santé de Doruma, dans le territoire de Djougou, fait face à l'épidémie de la rougeole depuis environ 4 mois. D'après les autorités sanitaires locales, sur plus de 300 personnes affectées, au moins 8 parmi elles sont décédées. Cette entité sanitaire fait face à plusieurs défis en termes de riposte pour éviter la propagation de la maladie dans cette région qui partage la frontière avec la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Docteur Lucien Arouando, chef de zone des santé de Doruma, s'entretient au téléphone avec Jean-Claude Lokidile.
Docteur Lucien Arouando, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Nous apprenons que votre zone de santé fait face à l'épidémie de rougeole. Qu'en est-il exactement?
Exactement, notre zone de santé fait face à cette épidémie depuis la dernière semaine de l'année 2023. Et jusqu'à ce jour, les cas ne cessent de s'augmenter. Alors, lorsque nous avons commencé à suspecter les cas de la rougeole, nous avons prélevé des échantillons que nous avons envoyés à l'antenne PEV, qui elle a envoyé à l'INRB à Kinshasa. Donc 8 échantillons sur 9 se sont révélés positifs.
Et à ce jour, on est à combien de personnes déjà affectées par cette maladie de rougeole dans votre juridiction?
Oui, à ce jour, je dirais jusqu'à la 15e semaine, la zone de santé a déjà notifié 332 cas de rougeole. Malheureusement avec 8 décès. Les 8 décès dont je parle, ce sont les décès au niveau de l'établissement de soins de santé. Malheureusement, il y a d'autres décès que nous ne pourrons pas rapporter, des décès qui sont survenus dans la communauté, parfois dans des villages que nous ne saurons pas rapporter.
Docteur Lucien, quelles sont les tranches d'âge qui sont plus concernées par cette épidémie?
Ce sont les enfants généralement au-delà de 5 ans, des enfants qui sont entre 5 ans et 10 ans. Malheureusement, il y a aussi des petits-enfants. Mais il y a des petits-enfants, généralement, à partir de 6 mois même, il y a des cas. Mais la tranche d'âge la plus touchée, c'est des enfants au-delà de 5 ans, 10 ans, qui sont la tranche la plus affectée.
Qu'est-ce qui est à la base de cette épidémie, à moins qu'elle soit une première de la zone? Quels sont les facteurs qui concourent à ce que cette épidémie puisse refaire surface dans la zone de santé de Doruma?
Le vrai problème, c'est qu'il y a un peu de réticence pour que les parents amènent les enfants à la vaccination. Si vous voyez la couverture vaccinale, la zone de santé est loin de la couverture, donc de l'immunité collective. Si je prends au moins l'année passée, nous étions à 84%, alors que pour une immunité collective, au moins 95% de couverture vaccinale.
Si je comprends bien, docteur Lucien, c'est que ce sont les parents qui refusent de céder ou de donner leurs enfants aux vaccinateurs pour qu'ils reçoivent cet antigène, là, ce vaccin contre la rougeole.
Le contexte de la zone de santé de Doruma est complexe. D'abord, nous sommes à la frontière avec deux pays, c'est-à-dire le Soudan du Sud et la République centrafricaine. La deuxième raison, c'est qu'il y a des échanges humains entre les habitants de ces deux pays-là. Et les deux pays-là, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, nous savons tous que ce sont des pays qui ne sont pas stables. Il y a des groupes armés ici et là, et le fait qu'il y ait ces contacts-là, ça permet que la maladie puisse facilement aussi traverser vers chez nous.
Qu'en est-il de la prise en charge de malades? Est-ce que avez-vous assez de stock de médicaments ou même du personnel médical qualifié pour faire face à cette épidémie? Bien sûr, en termes de riposte.
Oui, pour ce qui concerne la riposte, nous avons d'abord, après que les échantillons se sont révélés positifs, il fallait maintenant continuer à élaborer la liste linéaire, c'est-à-dire recenser tous les cas avec toutes les informations concernant les cas de ces rougeoles-là, à envoyer au niveau de l'antenne PEV, que nous avons déjà fait ça, et pour préparer une riposte de l'antenne PEV pour les aires de santé concernées. Mais nous, à notre niveau, avec le moyen des bords, nous nous sommes dit, bon, avec le moyen, on va vacciner autour des cas. Alors les vaccins que nous avions ne peuvent pas suffire à vacciner tous les cas. C'est pourquoi nous demandons à la hiérarchie, à l'antenne PEV, de pouvoir nous appuyer pour que nous puissions vacciner autour des cas. Et les établissements de soins de santé ont déjà des problèmes parce que tellement qu'il y a beaucoup de cas et il n'y a plus de médicaments. Et souvent, les parents sont démunis, ils n'ont pas assez de moyens. Ils viennent alors qu'ils n'ont pas d'argent. Et le peu de médicaments que les établissements de soins en avaient sont déjà presque épuisés.
Docteur Lucien Arwando, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.